BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
L'avenir est le seul endroit où l'on est certain tous de passer le restant de nos jours et la blockchain contient une fraction de l'avenir. On vous en parle de l'avenir de la blockchain et des cryptos chaque vendredi. Les pros des cryptos, Xavier Fenot avec nous toujours depuis Interactive Trading. Alexandre Stachenko vient de nous rejoindre aussi. Bonjour Alexandre.
Bonjour Guillaume.
Co-fondateur de Blockchain Partner, directeur blockchain et crypto pour KPMG France. Et puis Owen, bien sûr, comme chaque vendredi, Owen Simonin. Bonjour Owen, à distance aujourd'hui.
Bonjour.
Depuis Just Mining, connu aussi Owen, bien sûr, pour sa chaîne YouTube Asher H. A-S-H-E-U-R. Bon, séance compliquée aujourd'hui, très compliquée. Vendredi noir sur les marchés, un Black Friday au sens propre sur les marchés actions. Et on voit que sur les cryptos, en tout cas sur le Bitcoin, Xavier, c'est aussi le cas. Le Bitcoin qui recule assez nettement, actuellement à 54 000 dollars. Qu'est-ce que la tendance du jour sur le Bitcoin et les cryptos vous inspire? Quelles leçons peut-on en tirer?
C'est vrai que le Bitcoin, en fait, était déjà sous pression baissière depuis maintenant 2 semaines, alors à très court terme. Et c'est vrai que ces inquiétudes autour du variant d'Afrique du Sud accentuent un peu le mouvement. D'ailleurs, on se posait la question, est-ce que c'est une couverture contre l'inflation ou éventuellement une valeur refuge face à éventuellement un moment de stress sur les marchés traditionnels? Donc, pour le moment, non. C'est vrai que le Bitcoin, en fait, oscillait autour des 65 000, 58 000 dollars. On avait vu que depuis le 8 novembre, on a marqué en fait un point haut et ensuite, on a eu des plus hauts de plus en plus bas. À chaque fois qu'on a essayé de rebondir, finalement, on s'est arrêté en dessous des précédents plus hauts, ce qui montre qu'on avait quand même une petite pression baissière sur le Bitcoin. Mais pour autant, ça s'est pas propagé forcément à l'ensemble de la capitalisation totale, puisque finalement, depuis 10 jours, rien n'a changé. On est toujours autour des 2500 milliards de dollars sur la capitalisation totale. Donc, on voit que le marché, finalement, est en train de se diversifier en trois catégories. Il y a les plus faibles qui sont délaissés et qui le sont encore plus avec cette pression autour de ce variant. On a également celles qui surperforment. On a noté notamment dernièrement tout ce qui est autour de métaverse avec des performances incroyables. J'en note deux, par exemple Sandbox qui a fait x10 quand même. On a également Mana qui a fait x7 depuis fin octobre. Et on est toujours sur des records historiques. Donc en fait, il y a un écart qui était en train de se creuser déjà avant cette pression baissière suite au variant. Cet écart est en train de se creuser encore plus maintenant. Et pour rappel, le Bitcoin ne représente maintenant plus que, entre guillemets, 40% du marché. En début d'année, c'était 70% du marché. Donc, on ne peut pas forcément en fait, se référer à ce qui se passe sur le Bitcoin pour voir ce qui se passe sur l'ensemble du marché. Donc, effectivement, à court terme, oui, c'est anxiogène. Mais de manière large, il n'y a pas forcément, pour le moment, de remise en question de tendance moyen terme. Après, il faut voir au cas par cas.
Il y a un proverbe africain qui dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et vous nous dites, il y a une forêt qui pousse aussi aujourd'hui derrière le Bitcoin. Quand même, Xavier, le Bitcoin qui recule très nettement aujourd'hui, jusqu'où, d'après vous, cette baisse pourrait-elle aller?
Alors, pour le moment, on a cette zone support qui a été enfoncée, tout le monde l'avait vu, autour des 58 000, 60 000 dollars. On a un autre gros niveau, et là, c'est vraiment un niveau moyen terme. Il ne faudra pas passer là en dessous, parce que ça deviendrait vraiment inquiétant pour la tendance à long terme même, c'est les 50 000 dollars. Donc là, il va falloir se ressaisir là très rapidement. Je rappelle que le marché des crypto-monnaies, on va passer en dur week-end si on traite les cryptos, parce que ça cote à 24 et 7 jours sur 7. Donc, il va falloir voir comment va se comporter le marché au cours de ces trois prochains jours. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a enfoncé cette zone des 58 000, 60 000 dollars. Il faudra vite se ressaisir pour éviter d'aller beaucoup plus bas, c'est-à-dire 50 000. Mais voilà, je doute pour le moment, je reste quand même encore optimiste, hein, pas euphorique, je vous le disais il y a 2 semaines, optimiste mais pas euphorique. Là, ça sera optimiste mais pas paniqué non plus.
Bon, et vous diriez que cette baisse, ça peut être l'occasion d'investir après les récents records pour ceux qui auraient raté les records? Ça pourrait être une fenêtre de tir, un bon market timing?
Oui, même avant d'ailleurs la diffusion de cette news du variant, hein, il n'est jamais trop tard pour s'y intéresser. C'est une classe d'actifs comme les autres. Comme je le disais, en fait, il y a des winners et des losers. Le Bitcoin peut baisser, il y en a d'autres qui peuvent faire du x10 ou du x7. On l'a vu avec les métaverses, ce sujet-là, ces derniers jours. En fait, le tout, c'est d'avoir une exposition raisonnable selon les phases de marché, ne pas insister là où ça fonctionne pas, parce qu'il y en a qui ne fonctionnent pas. Je pense à Tezos, Cardano, qui était déjà délaissé ces dernières semaines, et ça l'est encore plus aujourd'hui. Et voilà, on peut trouver bien évidemment des opportunités sur des niveaux de moyen long terme sur nos cryptos préférés. Il y en a certaines, par exemple, depuis le début de l'année, qui ont explosé et qui sont endormies depuis un mois. Ça peut être l'opportunité de rentrer sur ces dossiers-là, sur des niveaux techniques intéressants. Mais encore une fois, s'exposer, oui, mais avec modération.
Xavier Fenot avec nous aujourd'hui depuis Interactive Trading. Bon, bien sûr, cette baisse des cours du Bitcoin dans le sillage ou en tout cas en accompagnement de la baisse, de la chute aujourd'hui des marchés actions liés à ce variant sud-africain. On y reviendra bien sûr tout à l'heure. Le club à suivre sur BFM Business à partir de 17h. Dans l'univers des crypto-monnaies, l'annonce de la semaine, elle nous vient à une nouvelle fois du Salvador qui veut construire le Salvador, une Bitcoin City, une ville dédiée, Alexandre, à la crypto-monnaie. Oui, après les smart cities, voici les crypto-cities. Cette ville sera construite près d'un volcan afin d'utiliser l'énergie géothermique du volcan pour alimenter la Crypto City, effectuer des opérations de minage de Bitcoin aussi. Alexandre, ça s'appelle au sens propre danser sur un volcan.
Oui, il y a un peu de ça. En fait, ce qu'on voit, c'est que le président salvadorien Nayib Bukele, il est en train de mettre tous ses œufs dans le même panier. En tout cas, il est en train de faire un pari qui est très ambitieux. C'est-à-dire que là, juste cette année, on est passé de Bitcoin qui était utilisé sur une plage qui est El Zonte à Bitcoin monnaie légale, à Bitcoin accepté dans beaucoup de commerces. Finalement, l'obligation maintenant à 1 milliard de dollars, dont la moitié servira à acheter du Bitcoin pour l'État, et maintenant la Bitcoin City. On est vraiment sur un pari qui est très ambitieux de la part de Nayib Bukele. Donc, j'allais dire, tant mieux pour lui si ça se passe bien, mais si ça se passe mal, évidemment, je pense qu'on peut s'inquiéter de son avenir politique. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que justement, cette ville Bitcoin, pour pouvoir la financer, il fait cette obligation de 1 milliard de dollars, dont la moitié vont servir donc à faire ce pari, où il va acheter pour 500 millions de dollars de Bitcoin, et l'autre moitié va servir à financer les infrastructures, le minage, la ville, etc., dont il cherche à faire un paradis pour les Bitcoiners, les libertariens. Il n'y aura aucune taxe, sauf la TVA. Donc c'est vraiment un endroit, et là vraiment Nayib Bukele il veut inviter les étrangers, les start-up, les entrepreneurs à venir s'installer au Salvador. Beaucoup de gens, et il y en a parmi eux qui sont français, qui sont allés à la conférence la semaine dernière Adopting Bitcoin au Salvador, reviennent du Salvador en disant qu'ils sont dragués par les différents ministères parfois pour venir s'installer chez eux, que l'expérience au Salvador a été vraiment super, et donc ça peut faire mouche. Pourquoi pas, sachant qu'on voit que ça commence à avoir des répercussions aussi aux États-Unis avec les machines à Bitcoin qui sont installées, les maires de New York, de Miami qui acceptent le Bitcoin pour leur salaire. Donc c'est très intéressant à suivre, mais c'est un gros pari très ambitieux qui est donc très risqué aussi.
C'est une façon de poli de dire c'est une folie de la part du Salvador ou non, ça reste quelque chose, un pari rationnel.
C'est pas moi qui leur dirais parce que le FMI s'occupe à leur dire régulièrement, donc je leur laisse ce luxe-là. Mais oui, c'est un pari qui est très ambitieux et derrière l'ambition, enfin un pari c'est toujours du risque. On peut pas avoir un rendement si on n'a pas le risque. C'est des choses qu'on a peut-être un peu du mal souvent à comprendre en France où on veut toujours investir après, quand il n'y a plus de risque. Nayib Bukele, il fait le pari en très amont. Donc oui, il y a un gros risque. Mais s'il gagne, il peut devenir le Singapour de l'Amérique latine. Il n'y a pas de Singapour actuellement en Amérique
latine. C'est vrai, gros retard de l'Amérique latine. Exactement. Sur l'Asie. L'Asie beaucoup plus innovante traditionnellement. On va voir si le Salvador là ouvre une brèche. Owen, une crypto city, vous imagineriez Owen aller vivre comme ça à Bitcoin City?
Alors... Pour le coup, je n'y ai pas encore été, donc ce serait compliqué de me positionner. Par contre, on peut quand même... Alors, difficile de compléter les informations qui ont déjà été... le sujet a bien été balayé du coup par Alexandre. Par contre, c'est vrai, et on s'en rend compte, le ministère vient draguer différents bitcoiners dans le monde entier, et ça ne s'arrête pas simplement à la venue de quelques Français, notamment Sébastien qui était venu sur ce plateau de la société Big Block Data Center. Ça va même au-delà de leur simple venue au Salvador, mais ça va également sur les réseaux sociaux, dans le sens où le ministère s'adresse carrément à certains bitcoiners en direct en leur disant... Pourquoi n'êtes-vous pas déjà là? Pourquoi n'avez-vous pas déjà déplacé votre entreprise et votre vie en général? On vous attend de pied ferme et on va créer une ville où tout, et ce sont les mots du président Nayib Bukele, tout sera dédié au Bitcoin.
Bon, dansons sur un volcan. Pendant ce temps, les cryptos, en tout cas, recrutent. Citi a annoncé la constitution d'une équipe dédiée aux crypto-monnaies avec un recrutement de quelques dizaines de personnes, 100 personnes. D'autres banques aussi ont annoncé vouloir se lancer dans les cryptos comme DBS, la banque singapourienne, le concurrent OCBC aussi qui se penche sur la proposition d'un exchange crypto. Quel intérêt, Owen, les banques trouvent-elles à proposer désormais ce genre d'investissement ?
Alors, déjà, faut se souvenir que les produits que propose une entreprise émanent souvent des besoins de leurs clients. et il y a de plus en plus de demandes. Donc déjà, l'intérêt, c'est satisfaire la demande et la curiosité des particuliers et des entreprises à vouloir investir dans les crypto-monnaies. Ensuite, il y a également le fait de se positionner dans le progrès, c'est-à-dire de fournir de nouvelles solutions et également d'ouvrir de nouveaux types de rendements que ne proposent que les crypto-monnaies. Ça permet de mettre à jour technologiquement et de montrer que certains établissements bancaires veulent être en avance de phase. Et pour finir, ça va être capter des volumes parce que mine de rien, petit à petit, étape par étape, les volumes du monde des crypto-monnaies sont de moins en moins ridicules, deviennent significatifs, et donc capter ces volumes et une commission sur ces volumes est donc évidemment un produit que les établissements bancaires commencent à considérer très sérieusement, voire même commencent à établir, puisqu'on a du coup ces positionnements qui sont en train d'être faits et ces nouveaux produits qui sont en train d'être établis.
Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit côté schizo quand même? Les acteurs bancaires, Alexandre, critiquaient toutes les crypto-monnaies auparavant, et les voilà de plus en plus nombreux, ces acteurs bancaires, à se pencher dessus.
C'est simplement révélateur d'une tendance qui est bienvenue parce que effectivement les acteurs bancaires ont eu tendance sur les dernières années à essayer de faire entrer des ronds dans des carrés d'une certaine façon, c'est-à-dire à dire bah la blockchain c'est bien mais les cryptos on veut pas en entendre parler. La plupart des pays sont en train de faire leur mue. On pense souvent, on en a cité plein de banques, mais on pense souvent aussi à JP Morgan qui disait il y a 3 ans si je trouve un employé qui touche Bitcoin je le licencie, et aujourd'hui il propose des services sur Bitcoin. Donc cette mue elle est déjà bien amorcée. Il y a beaucoup de pays, je pense surtout aux États-Unis, où elle est, pour moi, il n'y a pas de retour en arrière possible maintenant, en tout cas en termes de positionnement des acteurs bancaires. Et cette mue, cette incompréhension, elle était due au départ à plusieurs facteurs. Il y avait l'incompréhension, évidemment, qui était de bonne foi, c'est-à-dire beaucoup d'acteurs bancaires ne comprenaient pas ce qui arrivait. En fait, se disaient, mais comment un actif qui n'est géré par personne peut servir de moyen de paiement, de monnaie, ou d'actifs financiers traditionnels. Après, il y avait tout ce qui est incompréhension de mauvaise foi, c'est-à-dire plus des raisons politiques, où le secteur bancaire parfois avait envie de mettre des barrières pour empêcher des concurrents, l'innovation d'émerger et donc de s'acheter de certaines façons des années de tranquillité. Le problème, c'est que ça, c'est un raisonnement qui est valide dans un monde fermé, mais à partir du moment où les autres pays innovent, en fait, ça s'appelle juste rater la révolution et laisser les autres pays prendre la place. Donc ça, c'est en train de s'en aller. Et puis, après, il y avait simplement cette incompréhension en général. Peut-être aussi une raison plus rationnelle, je vais conclure par ça, qui était l'absence de marché. Owen l'a déjà dit, s'intéresser aux cryptos il y a 3-4 ans, d'un point de vue purement rationnel, est-ce qu'il y a du business à faire dessus, c'était une équation qui était moins certaine du point de vue bancaire.
Depuis bientôt un an, du coup, on est là, les pros des cryptos aussi, pour accompagner ce mouvement, essayer d'apporter de la pédagogie financière également pour tous ceux qui nous suivent. Vous savez qu'il y a un nouveau fil Twitter aussi, BFM Crypto, si vous voulez retrouver les meilleurs moments des pros des cryptos. Quand on a créé cette émission il y a presque un an avec aussi Grégory Raymond, qu'on salue, on a essayé à chaque fois d'expliquer les nouveaux termes et on continue de le faire, de s'y employer, de s'y échiner. L'univers crypto est jargonnant et c'est d'ailleurs une petite limite à la démocratisation des cryptos. Pourquoi est-ce que vous dites toutes, par exemple, ATH au lieu de record? Non, mais c'est vrai, dans cette univers. Alexandre, vous dites tous ATH au lieu de dire record.
Moi, j'ai pas parlé de prix. Hein.
Non. Aidez-vous vous-même si vous souhaitez que la thématique se démocratise. C'est qu'un exemple. Aujourd'hui, on va expliquer un terme qui, pour le coup, lui, justifie un jargon et qu'il va falloir donc ce terme expliquer. Le terme de launchpad, dont on entend beaucoup parler, il va falloir éveiller nos auditeurs à cette terminologie et à ce lexique. Le launchpad, de quoi s'agit-il et en quoi est-ce que c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent aux crypto et à la blockchain? Alexandre.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu, notamment en 2017-2018, plein de projets qui lançaient des ICO, donc des levées de fonds en crypto-monnaie, et qui avaient besoin d'émettre un jeton, de solliciter de l'épargne pour financer leurs projets. Et c'était une méthode d'investissement qui était très innovante parce qu'aucun intermédiaire, des levées de fonds démentielles en très peu de temps. Je me souviens de projets, par exemple, on peut citer le Brave Attention Token, c'était 30 millions de dollars levés en 30 secondes. C'est des chiffres qui est impressionnant. Le problème, c'est que évidemment, comme il n'y avait pas de barrière à l'entrée et qu'il n'y avait rien du tout, on s'est retrouvé très rapidement à avoir 5, 6, 7, 10 ICO par jour, dont l'énorme majorité étaient des arnaques ou dans le meilleur des cas, des mauvais projets. Donc ça devenait impossible pour des particuliers ou même pour des professionnels, en réalité, de se retrouver dans cet univers et d'aller chercher les bons projets parce qu'en fait, il fallait y passer la journée à analyser des white papers pour savoir quels étaient les bons et les mauvais projets. Donc dans ce contexte-là, il y a des entreprises, des projets, Binance en fait partie par exemple, qui donc se sont dit on va jouer de la curation, on va sélectionner nous des projets, mettre notre label dessus pour pouvoir permettre aux entreprises de lancer leurs projets de jetons sur notre plateforme et donc permettre aux investisseurs d'être un peu rassurés parce qu'on a fait la curation du projet. Donc Binance a lancé son Launchpad qui donc permet de lancer des projets. Il y en a un aussi sur Polkadot. Il y a SushiMiso aussi sur SushiSwap qui permet de le faire. Donc ça, c'est plus de l'IDO, Initial Dex Offering. Donc on vient faire son introduction en bourse, entre guillemets, son introduction de jetons sur des nouvelles plateformes qui font de la curation maintenant pour pour le public.
Et comment on fait? Comment est-ce qu'on participe au Launchpad, Owen? Est-ce qu'on peut illustrer tout cela à travers des exemples?
Alors, c'est un mécanisme qui arrange beaucoup de monde. Déjà, ça peut permettre aux plus chanceux de la communauté d'avoir des accès à des meilleurs prix pour acheter un nouveau token. Je donne un exemple très simple. Binance propose des launchpads, donc ils mettent leur label sur certains projets et vont donner en tirage aléatoire à toute personne qui détienne des tokens de Binance, donc ça valorise également leurs jetons et ça donne un intérêt à détenir leurs jetons, de pouvoir participer à un prix préférentiel au lancement des nouveaux projets sur la plateforme. Peu de personnes sont choisies ou alors dans des petites proportions, mais on peut rapidement faire un beau multiple quand on est tiré au sort. Il y a deux types de launchpads qu'on voit la plupart du temps. Soit c'est un label, un peu comme Binance, d'accord, ou une grosse structure, il y a KuCoin, une autre plateforme d'échange qui propose ça. On va du coup avoir des conditions. Chaque utilisateur peut participer à condition qu'il ait tant de jetons de la plateforme depuis tant de temps, qu'il s'engage à respecter telle et telle condition, par exemple. Et donc, ça va lui donner accès au tout nouveau projet et réaliser un profit. De l'autre côté, on a également les blockchains d'infrastructure. Ces blockchains qui, elles, Alexandre vient de les citer, il y a par exemple Polkadot, qui vont dire, bon bien, si vous investissez dans un nouveau projet, sachez que nous, on va proposer que des crypto-monnaies qui seront lancées sur notre technologie. Donc, non seulement il y a le label, mais il y a également le fait de, nous, on va aider et on va labelliser que des jeunes projets qui veulent se lancer sur notre blockchain. En gros, comme si des nouveaux concessionnaires se lançaient en partenariat avec une grosse marque très connue et en échange, ils pouvaient utiliser et ils devaient utiliser le moteur de cette technologie. On peut prendre l'exemple également, Binance le font aussi, parce que Binance a sa propre technologie et ils labellisent beaucoup de projets comme ça. Il y a Polkadot qui le font, il y a également Elrond qui propose de le faire. D'ailleurs, ça a été le choix qu'a fait Audi, puisqu'ils ont choisi de lancer un de leurs projets qui s'appelle Holoride sur la blockchain Elrond, en offrant à la communauté qui détenait des tokens Elrond EGLD depuis longtemps le droit de participer et d'avoir à un bon prix une partie de ces nouveaux jetons. Donc pour le coup, c'est un partage communautaire d'une certaine part de cette valeur, mais ça donne beaucoup de visibilité au projet qui s'est fait labelliser et ça permet de faire des introductions tout en respectant et en distribuant la valeur selon certaines règles qui sont prédéfinies et différentes en fonction des plateformes et des blockchains d'infrastructure qui proposent ses services.
Le Launchpad sous toutes les coutures. Et les gars, c'est bientôt Noël. On répond plus que jamais aux questions de ceux qui nous écoutent et qui vous suivent dans ce rendez-vous hebdomadaire des pros des cryptos. Armand nous a écrit, par exemple, sur notre site bfmbusiness.com. J'ai envie, nous dit Armand, d'offrir un wallet à ma sœur à Noël, histoire de la lancer sur les cryptos. Mais ce qui m'embête, c'est qu'elle ne pourra pas, si j'ai bien compris, prendre régulièrement ses gains et les stabiliser sur un stablecoin. Du coup, j'hésite entre un wallet et l'orienter plutôt vers une plateforme d'exchange. Mais là, je me méfie des frais, nous dit Armand. Pouvez-vous m'orienter? Cela s'adresse à quelqu'un qui fera ses premiers pas et pour du long terme. Déjà, Owen, peut-être quelle différence entre un software wallet et un hardware wallet et un exchange?
Alors, un software wallet, alors on va tout remettre ça à qui détient le mot de passe. En gros, dans la blockchain, il y a ce qu'on appelle une clé privée. Et c'est cette clé privée que la blockchain nous demande quand on veut dépenser de la crypto-monnaie, tout simplement. Quand on veut dépenser sa crypto, on doit prouver à la blockchain que nous sommes bien le propriétaire de X ou Y compte. Et la blockchain nous demande une preuve, c'est-à-dire le code qu'elle nous a remis lors de la création de notre compte. À ce moment-là, soit on a un software wallet, c'est donc un logiciel dans lequel ce mot de passe va être conservé, généralement chiffré. Faut faire attention parce que si c'est un logiciel, on peut avoir un virus et on peut se faire dérober ce code, même si normalement il est censé être chiffré et donc protégé même en cas de vol. Ensuite, on peut avoir un hardware wallet, c'est-à-dire une clé physique. On a l'exemple du géant Ledger, mais il y en a plein d'autres qui vont en réalité conserver cette clé privée et faire en sorte que l'ordinateur prouve à la blockchain, et je donnerai un peu plus de détails après ça, qu'on est bien le propriétaire et qu'on est bien en possession de cette clé privée, sans pour autant que ça circule dans l'ordinateur. C'est encore une sécurité supplémentaire. Ça s'appelle également un cold wallet, dans le sens où à partir du moment où on débranche la clé de l'ordinateur, il n'y a aucun moyen d'accéder à ce mot de passe. C'est-à-dire qu'un software wallet, on appelle ça un hot wallet, parce qu'à tout moment, on est en train de faire autre chose sur son ordinateur, on a bel et bien notre mot de passe, notre clé privée, dans le logiciel, connecté à Internet en permanence, et donc on dit qu'il est tout le temps connecté au réseau. Et pour finir, on a les wallets, donc les portefeuilles qu'il y a sur les échanges et les plateformes de crypto-monnaie. Là, en l'occurrence, ce n'est même pas vous qui êtes le propriétaire, c'est l'exchange lui-même, la plateforme que vous utilisez, qui est garant de votre mot de passe, donc ça peut très bien se passer, tout comme si un jour elle se fait hacker et qu'elle sécurise mal les différents accès à ses clés privées, on peut voler de l'argent à une plateforme qui en détenait pour compte de tiers et donc pour ses clients.
Et donc pour quelqu'un qui débute et pour répondre à cet auditeur, Armand, quel conseil est-ce que vous apporteriez, Alexandre ?
En fait, ça va dépendre de la perspective d'investissement de la sœur en question à qui il souhaite offrir un wallet, parce que si cette personne souhaite rentrer dans les crypto-monnaies avec une perspective de trading, dans ce cas-là, ça peut être intéressant effectivement qu'elle ait accès à du hedging, qu'elle puisse sortir des stablecoins lorsque le marché prend une respiration et qu'il faut sortir pour se protéger. Mais c'est généralement pas la façon dont on rentre en tant que néophyte dans le marché des cryptos. Le marché des cryptos, Xavier l'a rappelé tout à l'heure, c'est un marché qui ne dort jamais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une volatilité forte. Donc si on n'est pas un professionnel du trading, il vaut mieux s'y coller plutôt sur le long terme et s'éduquer au sujet, avoir une conviction et en fait investir, lisser son investissement. Et donc dans ce cadre-là, en fait, j'allais dire, c'est même d'une certaine façon une mauvaise idée d'avoir accès à des stablecoins, parce que ça peut générer des comportements que tout le monde a eu, que quand on est néophyte dans la crypto, on a tous fait ça, c'est-à-dire paniquer, vendre et puis se rendre compte que ça reprend 15% derrière et qu'on a perdu l'équivalent de 15%. Donc pour faire ces investissements sur le long terme, les conseils sont assez simples. Et en plus, il y a même des plateformes en France qui sont labellisées par l'AMF qui permettent de le faire. Je pense en particulier à Bitstack, je pense à Stackinsat, qui sont des entreprises qui permettent de rendre ça de manière tout à fait transparente pour les gens. Donc le cadeau, pour moi, un hardware wallet, si c'est mieux s'il y a quelques satoshis dessus, évidemment. Et ensuite, une éducation à ces différentes plateformes que j'ai pu citer pour que la personne puisse rentrer dans le Bitcoin avec une philosophie d'investissement long terme.
Et on va garder le suspense pour le prochain rendez-vous des pros des cryptos sur les meilleures pratiques pour sécuriser ces crypto-monnaies sur un exchange. Également, comment sécuriser son hardware wallet. Vous nous direz tout cela la prochaine fois. Parce qu'on est arrivé au bout et qu'on a une grosse séance boursière qu'il va falloir qu'on décrypte aussi. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Alexandre Stachenko, qui était avec nous en plateau aujourd'hui pour Blockchain, directeur de Blockchain Partner, voilà, et directeur Blockchain et Crypto de KPMG France. Merci beaucoup, Alexandre.
Merci, Guillaume.
Owen Simonin, Just Mining, régulièrement à nos côtés, sa chaîne YouTube Asher. Merci, Owen, qu'on retrouvait à distance avec Xavier Chenot pour Interactive Trading. À bientôt. Le Bitcoin qui recule, à l'instar d'ailleurs des marchés actions aujourd'hui. Bitcoin actuellement à 54 000 dollars, alors que le CAC 40 perd 4,4%. Vendredi noir sur les marchés, avec ce variant sud-africain qui vient refaire surgir des craintes épidémiques. On s'en reparle dans un instant. Le club vous ouvre ses portes dans moins de 2 minutes. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.